Donald Charrette.
Qu'est-ce qui se passe en ville?
In the city with Donald.
Avec Donald Charrette.
L'homme de la situation, Donald Charrette. Comment ça va, Donald?
Très bien, vous autres.
On parle devant le micro.
Oui, le micro, oui.
Oui, bonjour,
t'es
monsieur.
T'es pas à l'église.
Excusez-moi, je t'ai pas réveillé.
Comment ça va?
Ça va très bien, vous autres.
Ils ont voté pour ça, les gens de ce quartier-là.
Ben oui.
Puis ça va chialer. Mais ils voulaient, Dan et Donald. Ils ont voté pour ça. Mais les résidents également, puis là, je veux parler des résidents, on a parlé des commerçants, ça va chialer tout à l'heure. Quand les gens vont bisouner dans les quartiers, tu l'avais très bien expliqué ici dans Montréal Live, les gens vont virailler, suffrasaire, ceci, ça, Aberdeen. Ça va dégouliner dans les rues résidentielles et les gens vont chialer. Qu'est-ce qu'on va leur dire, Donald, à ce moment-là?
Ah, ben écoute, on est obligé de dire Vox Populi, Vox Dei. Alors, voilà. C'est sûr que les gens ont voté pour ça. Là.
Told you so.
Ceci dit, bon, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté en ne connaissant pas les impacts du tramway. Je pense que c'est ça qui est arrivé, là. La méconnaissance du dossier, là. T'sais, il faut l'avoir observé un peu et puis voir étape par étape ce que ça veut dire pour la Ville de Québec. Moi, je maintiens depuis le début que c'est un projet qui va paralyser la Ville, qui va la couper en deux et qui va vraiment la mettre dans des difficultés financières. Alors, c'est un projet qui n'est pas fait pour la Ville de Québec, qui n'est pas adapté le tramway. Moi, c'est ce que je soutiens depuis le début. Mais là, je pense qu'on va le vivre. Je pense que les prochaines années pour M. Marchand vont être assez difficiles parce que là, les gens vont vivre avec le concret. C'est-à-dire qu'on ouvre des rues, puis on transforme des sens uniques. Puis tu parlais de la voie partagée. La voie partagée sur René Lévesque, là, moi, je pense que c'est une catastrophe annoncée. Là, parce que là, on va se diriger vers un goulot d'étranglement à partir de la rue Cartier. Là, on va tomber avec une voie partagée où la limite de vitesse est à 20 km et où les piétons et les cyclistes ont priorité. Puis là, il y a une trémie, c'est-à-dire l'entrée du tunnel là, qui va arriver là, là en face du Grand Théâtre, grosso modo. Là. Ça va être un entonnoir épouvantable. Et je vous rappelle que ça, c'est aussi la voie de circulation qui nous mène sur la côte de Beaupré, là, alors qu'il est près du frère Montmorency, etc. Alors, on va paralyser complètement le centre-ville. C'est un exemple que je donne. Là. Puis multiplier ça sur René Lévesque, sa première avenue, sur le boulevard Laurier. Alors, c'est ça qu'on va vivre pendant les prochaines années. Une multitude de travaux. Et pour, je le rappelle, au bout du compte, un gain de transfert modal assez minime. Alors, tu sais, il y a ça aussi, bout de la ligne. C'est pas le bon projet pour la Ville de Québec. Mais ceci dit, on l'a dit, on l'a répété, mais les gens se sont dit, bon, ben, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, moi, finalement, on va l'avoir le tramway, mais par écœurement. En disant, bon, on est tanné d'en parler, là. On est aussi bien de le faire parce qu'on est écœuré d'en parler. Je trouve que c'est un raisonnement un peu stupide, là. Mais tu sais, tu peux pas accepter un projet de cette ampleur-là parce que tu es écœuré d'entendre parler, là. Il faut que tu aies un gain là-dedans. Et le gain n'est pas démontré jusqu'à présent. Et écoute, je pense que les commerçants de la rue Cartier avaient déjà, dès le début, levé le drapeau en disant, ça n'a pas de bon sens, ça passe pas sur René Lévesque. Et là, ils vivent encore avec des travaux temporaires. Mais quand ça va ouvrir les quartiers pendant 6 mois de temps, là, ça va être autre chose. Je pense que là, on va arriver dans les gros travaux. Là.
Reviens sur la rue partagée. Explique le concept. Pour beaucoup de personnes, on le sait c'est quoi, mais pour beaucoup d'autres, on ne le sait pas c'est quoi. Ben, mettons, je roule sur René Lévesque, à partir de Belvédère, direction centre-ville, direction, si tu veux, direction quartier, direction Grand Théâtre. Pout, 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 je roule. À partir de quand ça devient une rue partagée? Selon les graphiques que tu as analysés.
Bon, ben, selon le projet de départ, écoute, ça ralentissait déjà avant, parce que même à partir de Hollande, Belvédère, etc., on commençait à ralentir le trafic, parce qu'à partir de quartier...
Parce qu'il y a déjà des pistes cyclables qu'on va garder, je présume, à partir de Samuel Hollande, à partir jusqu'à... OK.
Ouais, donc, tu peux pas passer de 50 km à l'heure à 20, là, tu sais, alors il va y avoir une réduction graduelle de la vitesse, mais au départ, en tout cas, la voie partagée commençait à la rue Cartier, puis elle s'attendait jusqu'à la Rémi, là, devant le Grand Théâtre, etc., le tunnel. C'est-à-dire que là, une voie partagée, d'après les critères du ministère des Transports, c'est une voie qui doit être implantée sur une rue secondaire où il n'y a pas d'autobus, où il n'y a pas de transport.
Est-ce qu'il y a des exemples comme ça à Québec? Que dans le coin de Saint-Vallier, est-ce qu'il y a des rues partagées?
Je pense que c'est ce qu'ils ont fait sur la rue Saint-Olivier. Saint-Olivier. Je pense que c'est ça qu'ils ont fait. Là. Alors, puis souvent, ils vont éliminer les trottoirs parce que là, c'est une voie, en fait, où le piéton et le cycliste est roi. Alors, tu sais, et tu dois
t'as céder. Le goût de prendre une marche dans le milieu de la rue, il y a un camion qui veut livrer du pain.
T'as priorité.
C'est le piéton qui, là, tu te fais klaxonner en tant que piéton. Non, tu restes dans le milieu, c'est ton choix.
Et selon les critères du ministère des Transports, ces voies partagées-là sont réservées à des rues secondaires. C'est dans les critères, là, dans les rues secondaires où il n'y a pas de transport en commun. Donc, c'est pas fait pour une voie aussi achalandée que René Lévesque, par exemple. Donc, on a appliqué un concept qui ne devrait pas s'appliquer sur René Lévesque. Parce que c'est pas une rue secondaire. Puis moi, je dirais que René Lévesque, comme Laurier, c'est probablement les deux artères les plus fluides à Québec. T'sais, quand tu regardes le monde qui circule là, ça roule là, à journée longue, mais ça bloque pas beaucoup. C'est extrêmement efficace.
Alors, tu as tout à fait raison. Je suis sur le site actuellement de Transport Québec. Les piétons ont priorité sur l'ensemble de la chaussée et peuvent se déplacer ou traverser où ils veulent. Bon, quelqu'un qui mange un suçon avec un ballon, qui chante, qui se promène, qui danse, il a le droit. Ouais, mais il y a un camion. Fuck le camion. Cyclistes, automobilistes et autres usagers circulent ensemble. Mais les piétons sont prioritaires et tous doivent faire preuve de courtoisie. Ben oui, ben oui. Moi aussi, je veux la paix sur terre, là. La vitesse maximale, c'est tout confirmé, là. Morel Live. Je vais vous dire, on était sur la coche et pas à peu près depuis le début. Tu viens de le dire, 20 km. Je confirme aux auditeurs que c'est 20 km ce que tu viens de dire. J'ai le document devant moi pour les voitures, pour les véhicules motorisés. Ces rues sont identifiées par une signalisation particulière et souvent un aménagement qui enlève la distinction nette entre trottoir et chaussée, tu viens de le dire, pour inviter à la cohabitation apaisée. Des usagers. Hein? On est-tu apaisé ce matin, mon cher Donald? Une rue partagée est une portion de rue publique où les piétons sont prioritaires, la vitesse est réduite et tous les usagers partagent l'espace en sécurité. Voilà. C'est ce que vous aurez. Pas de parking. 20 km.
Et la conséquence, c'est que le trafic va être dirigé sur le boulevard Laurier et sur la Grande Allée.
Alors, ça va dégouliner.
Oui, alors, tu sais, parce que ce trafic-là va aller quelque part. Là. Alors là, la ville se défend en disant que je pense que 80% de la circulation va dévier, entre autres sur la Grande Allée et sur Boulevard Laurier qui va devenir engorgé. Alors,
et les quartiers résidentiels.
Alors, tu sais.
Les beaux condos des anciens hauts fonctionnaires là, qui sont payés des beaux condos sur Aberdeen et dans ce coin-là, sur Fraser. Il va y avoir des chars tantôt, là.
Ouais. Puis, je vous rappelle, comme il va y avoir une traque, là, en plein milieu du chemin, là, mmh. Il y a 140 intersections, on ne pourra plus tourner à gauche. Je pense que la circulation va se diriger dans les quartiers résidentiels. Parce que les gens vont aller. Il y a des places que tu vas pouvoir traverser, comme à Holland, par exemple. Il y a des places que tu vas pouvoir traverser. Tu ne pourras pas traverser où tu veux, comme ça se fait actuellement. Alors, tu vas faire une grande boucle pour revenir reprendre la place où tu peux traverser.
Donc, il y aura beaucoup de trafic
dans les quartiers.
Dans les rues. Habité par des gens qui ont voté pour Bruno Marchand.
Ben, tout à fait. C'est le même raisonnement dans Limoilou, exactement, puis tout le long du trajet. Alors, il faut que les gens s'en rendent compte. Et moi, écoutez, quand tu vas dans les réunions d'information pour savoir qu'est-ce que ça veut dire en pratique, tu as très peu de réponses. Puis je vous rappelle là, ce que les commerçants disaient tantôt. Là, tu as comme deux sources d'information, la ville, la caisse de dépôt. Puis là, je suis pas trop sûr qu'ils ont le même discours, là. Fait que là, t'as deux. Là, ça va être à la caisse parce que, on l'a vu, la ville est devenue impuissante dans ce dossier-là. La ville n'a pas de réponse à donner parce que c'est la caisse de dépôt qui décide.
Sauf donner des informations comme Marchand qui n'a pas fait, là.
Ouais,
puis c'est-à-dire là, donner des informations au moins sur les entraves, là.
Ouais, tu sais. Puis là, est-ce qu'il serait sorti sur la place publique si les commerçants n'avaient pas mis la pression? Là, il a annoncé qu'il y aurait, bon, des précisions le 26. Est-ce qu'il l'aurait fait?
Oui, il y en a qui ont pleuré, donc la ville sort.
Ah, c'est ça. Là, ils réagissent encore une fois, en disant, ah, ben là, on n'a pas le choix, il fallait qu'on le dise. Là. Alors, tu sais, puis écoute, moi, je suis allé avant les fêtes sur la première avenue, puis la caisse de dépôt, vous dire, la ville n'avait pas de réponse, aucune réponse. Ils disaient tout, quand vous avez des questions précises, adressez-les à la caisse de dépôt. Alors, tu sais, on se renvoie la balle, mais pour le commun des mortels, le résidentiel, le commercial, attendez-vous là, à des surprises, beaucoup de très mauvaises surprises.
On va détruire l'économie avec ça. L'as-tu entendu Marie Langlois quand elle a dit qu'il y a plusieurs commerçants qui ont dit on renouvelle pas. On renouvelle pas le bail. Elle a nommé un commerce. Moi, qui ne renouvelle pas. Izakaya, je crois, une place de déjeuner ouais. Sur un quartier. Mais j'ai donné d'autres noms de commerces. Elle a semblé dire que, ouais, il y en a peut-être là-dedans qui songent à ne pas renouveler ou à vendre. T'es-tu inquiet pour l'économie?
Ouais, tout à fait. Puis, tu sais, il faut t'sais, vous dire aussi, même les propriétaires de blocs appartements sur René Lévesque, là, vas-tu réussir à louer ton appartement si on dit qu'il y a des travaux pendant 6 mois avec le trouble que ça donne, etc., les rues, t'as plus de stationnement? Tu sais, il y a des conséquences partout à la longueur du tracé, là. Alors, il faut que les gens s'en rendent compte. Mais ceci dit, comme tu dis, les gens ont voté pour ça, puis M. Marchand est majoritaire. Alors, il se fait tard pas mal. Là. Il se fait tard pour arrêter ce mauvais projet-là.
Et tu peux pas plaider, je n'étais pas au courant. Parce que tu l'as fait, le travail.
Ouais, mais je suis toujours surpris.
Depuis le BAP, Donald, regarde, tu vas te prendre le crédit, là, les compliments, tu vas y prendre. Tu as suivi toutes les audiences du BAP. Ouais. Tu as décrit, dans le concret, le BAP qui était contre ce projet-là. La BAP n'a pas recommandé ce projet-là et on le fait pareil.
Rapport de 400 pages, très bien documenté.
Où on raconte le dynamitage aussi.
18 mois de dynamitage sous le quartier Saint-Jean-Baptiste. Alors tout ça a été...
Et que ça va pleurer.
Tout ça a été documenté. Mais ceci dit, je suis toujours surpris quand je parle avec des gens, puis je leur parle du tramway, puis je parle des conséquences. Il y a toujours quelqu'un qui me dit « Ah oui, mais c'est ça que ça veut dire. » Il y a toujours, tu sais, les gens n'ont pas suivi ça de façon aussi assidue, puis je ne les blâme pas, là, ils ont d'autres choses à faire dans la vie. Moi, je me suis donné comme rôle de le faire, là. Alors, tu sais, mais les gens n'ont pas tous suivi ça dans... Il y a beaucoup de gens qui sont laissés duper par « Ah, c'est un projet moderne, puis on va mettre Québec sur la map avec ça, etc. » sans mesurer vraiment ce que ça veut dire. Puis peut-être qu'on a...
Est-ce qu'ils ont été insouciants?
Oh, je pense que oui, un peu insouciants. Puis un peu, comme je disais tantôt, par un peu abattement, disant que bon, on était carré d'en parler, faisons-le, puis on verra bien, tu sais. Alors, il y a un peu de cette mentalité-là, tu sais. Mais écoute, moi, je me dis que là, les gens vont commencer vraiment à subir les conséquences et peut-être à protester, là, tu sais. Mais
est-ce que ça fait... Est-ce que ça peut être comparé à, mettons, une situation tout à fait... Imaginez, fictive, quelqu'un qui vote pour le PQ, puis le PQ est majoritaire, puis là, les gens vont dire, voyons, qu'est-ce que c'est ça, campagne référendaire? Ah, ça peut-tu être comparé à ça?
Tout à fait. Je pense que tout à fait. C'est pas parce que... non, c'est pas parce que monsieur ne l'a pas dit, monsieur Saint-Pierre Plamondon le répète inlassablement.
Ouais, mais moi, j'ai voté PQ pour me débarrasser de la CAQ. Non, non. T'as voté pour un référendum.
Oui.
Il dit, là. Ouais, mais là, moi, là, ça va pas. Moi, non,
je pensais qu'il le ferait pas. Tu sais,
c'est ça, exact. On risque de revivre ça. Mon cher Donald, avec les hommages et tout, on a mangé le temps de ta chronique. Mais ceci dit, j'ai toujours le temps pour un peu de dessert.
Ben, j'aurais au moins... Il faudrait qu'on parle absolument de la SAC. Je pense que c'est important. Là.
Ben, la SAC est sous surveillance. Puis on laisse quasiment entendre que c'est une boîte à poux avec peut-être... La corruption, on verra bien. La police est dans le dossier.
Ouais, ben écoute, c'est très important ce qui s'est passé hier. C'est l'autorité des marchés publics, là, qui est une espèce de chien de garde qu'on connaît plus ou moins des marchés publics, qui a publié un rapport hier. Puis, en termes clairs, l'autorité des marchés publics vient de mettre en tutelle la SAC, une des plus grosses agences gouvernementales. Ils l'ont mis en tutelle parce que là, ils donnent des ordres de faire des rapports aux 6 mois. Puis, j'ai regardé un peu le rapport hier, là, c'est dévastateur pour la SAC, là. Ce qu'on démontre là-dedans, là, c'est que la SAC, là, tout au long du processus de l'octroi de ce contrat-là qui a tourné à 1 milliard, là, a faussé les règles, a avantagé SAP, a tout fait pour que le SAP obtienne le contrat. Ils ont fractionné des contrats pour éviter de retourner un appel d'offres. Alors, on dessine là-dedans toute la magouille et l'incompétence, parce que c'est beaucoup l'incompétence autant des dirigeants que du conseil d'administration, puis peut-être du pouvoir politique là-dedans, qui conduit à ce fiasco-là. Alors ça met beaucoup la table, je pense, pour le rapport Galland. Le rapport de...
Oui, le rapport Galland, mais moi, c'est le rapport de police qui m'intéresse.
Ouais, alors, ils mettent la table. C'est un bon dossier. Il y a 50 pages, leur dossier. Il est bien documenté. Tu as tous les détails, le cheminement. C'est très bien fait. Ce qui manque peut-être, puis je pense que c'est pas leur rôle, là, c'est d'identifier les coupables. Nommer les personnes. Qui est responsable? Qui a fait ci, qui a fait ça, tu sais. C'est pas dans ce rapport-là. J'imagine que ça va être, j'espère, dans le rapport Galland ou non, sinon, dans le rapport de l'UPAC.
Est-ce que tu t'attends des noms de politicos?
Ben, moi, je pense que... Dans le rapport Galland, je pense que oui, normalement, il devrait dire, écoutez, là, les politiciens n'ont pas posé des questions auxquelles ils devaient poser ou, tu sais, ils n'ont pas fait leur job de vigilance. Je m'attends à ce qu'on nomme les politiciens qui étaient là à l'époque. En tout cas, je pense qu'il ne peut pas passer à côté, là, parce que même...
Guilbeault, Kerr, Bonnardel, peut-être.
Puis, tu sais, rappelez-vous, même François Legault avait dit après le témoignage, écoutez, il y aurait des conséquences. Alors, moi, je pense qu'il y a des carrières politiques qui vont peut-être se jouer sur le rapport Galland et sur toute histoire-là, parce que c'est pas terminé. Mais je vous dis, hier, là, c'est aller consulter ceux qui veulent aller lire le document comme tel, là, c'est très instructif, là.
Très bon. Avec la grande générosité de Dan, est-ce qu'on peut y aller avec une dernière bouchée?
Ben oui.
Ouais. Oui. Oh, Dan est fin.
J'aurais envie de vous parler d'une idiotie bureaucratique.
Ah, franchement, les gros mots. Ah, les gros mots. Quelle vulgarité.
Alors ça, je trouve ça, là, c'est quasiment amusant si ça pousse d'ici les aspirants. C'est un texte de la presse qui nous apprend ça. La journaliste de la presse a reçu un chèque du ministère de l'Immigration fédérale. Oui. Elle se demandait pourquoi. Et là, elle a appris en questionnant qu'elle a été remboursée parce qu'elle avait demandé un renouvellement de passeport pour son fils et elle a reçu un an après ça un remboursement. Parce que le gouvernement fédéral s'est donné des balises de délai de livraison de services. Alors, il se donne des balises et s'il dépasse les balises, il te rembourse. Alors, dans son cas, elle, ils ont remboursé 25 % du coût de son passeport un an après en lui envoyant un chèque. Alors, il a envoyé un chèque pour compenser l'inefficacité du bureau des passeports. Alors, tu as payé un fonctionnaire pour t'envoyer un chèque qui coûte 2 piastres à envoyer pour compenser l'erreur du ministère de l'Immigration. Alors, c'est vraiment...
Boîte à pot.
Alors, c'est là, je trouve que c'est l'exemple parfait. Et ça, ça a l'air de rien, mais ces remboursements-là, ils ont coûté 40 millions de dollars. Ça fait que tu payes du monde pour surveiller un ministère qui se pénalise pour sa lenteur. Tu sais, tu dis là, c'est le bout. Tu dis, voyons donc.
C'est le bout de la marbre.
Hein? Alors, c'est là, tu dis, c'est ça, un système public.
Ah, regarde. On en redemande, mais en même temps, je ne suis pas surpris. C'est comme, ben oui, ça va être le reste.
Mais c'est
les ingénieurs, là, hier, qui ont fait un point de presse pour dire, ça s'est foire, les infrastructures à gauche et à droite. On aurait besoin de 80 millions juste pour mettre à niveau. Et ça, c'est sans parler des canalisations d'eau. Un autre, 40 milliards, pardon. Ah, 80 milliards, 40 milliards. Tu sais, les montants sont lancés comme ça, ça n'a quasiment plus d'importance.
Ah, ben, tu sais, le déficit d'entretien est à 40 milliards. Là.
Oui, c'est ça.
Ben, tu sais, mais écoute, si on avait des gouvernements responsables, soucieux du bien commun,
exact.
Ils mettraient l'argent dans les infrastructures et non pas sur des nouveaux projets un peu tout croche et mal ficelés ou mal attachés.
Mon cher Donald, je te remercie.